Comme Josué l'a annoncé, voilà, on a rattrapé, on est l'avant numéro 2. On a eu un petit changement de plan, hein, il y a 15 jours, on avait fait l'avant numéro 1 à cause des problèmes de calendrier. Et Josué nous l'a rappelé, hein, on avait vu le plan magnifique de Dieu, un plan où Dieu n'a pas de plan B. Voilà, c'était un peu, allez, je vais rééditer, je vais réutiliser la même chose qu'il y a 15 jours. Hein. Vous savez, on est aussi dans un monde de recyclage. Donc j'ai recyclé le même PowerPoint en modifiant bien sûr ce qui nous intéresse, parce que c'est pour montrer que Dieu, ça sera toujours la même accroche. Nous, on a nos plans, nous, on a nos projets, ils peuvent échouer, on peut en avoir un deuxième. Hein, on connaît bien l'expression avoir un plan B. Et ben, en fait, notre volonté de cet avant, c'était de montrer que Dieu n'a jamais eu un autre plan que Jésus. Alors on peut dire, c'est simple, tout le monde connaît l'histoire, mais en fait, se rappeler cette histoire, se rappeler l'amour, la grâce, tout ce qu'on a chanté, tout ce qu'on a prié, la fidélité de Dieu, son amour, sa justice, et son besoin, sa volonté d'avoir une relation avec sa créature rebelle. Et ça, c'est Dieu a un plan. Et Dieu a toujours eu ce plan. Et on l'a vu, hein, nos plans à nous, que ce soit dans l'Église, ils sont faillibles à notre image. Nous sommes des hommes et des femmes faillibles, et nos plans sont faillibles. Mais lui, Dieu a un temps infaillible, a eu son plan. Ce fil rouge, hein, comme on l'avait déjà vu, comme on avait clôturé la dernière fois, un fil rouge qui traverse toute la Bible, toutes les Écritures jusqu'à Jésus-Christ, et de Jésus-Christ, ça repart de l'autre sens. Jésus-Christ est le centre de tout. C'est lui qui a toujours été le plan de rédemption. Et c'est ça qu'on voit ensemble, voilà, comme un peu un rappel en temps de Noël. On va fêter Noël, mais qu'est-ce que Noël finalement? La naissance de Christ, oui. Mais ça montre à quel point c'est tellement plus en fait. C'est l'aboutissement d'un plan. Jésus est-il donc le plan B? On avait ces points d'interrogation. Et là, on a un nouveau contexte. Voilà, le plan de salut. Non, on avance un peu dans l'histoire. Hein. Vous savez qu'on avait laissé la Genèse, hein, où il y avait eu cette descendance qui était promise après le péché, après la chute. Après, on avait vu Moïse qui allait mourir. Et qui laissait le peuple en disant, voilà, mais vous allez échouer. Alors, malheureusement, vous allez avoir besoin d'un prophète qui va venir. Et moi, je vous annonce un prophète. C'est ce qu'on avait vu ensemble, que Jésus sera ce prophète, celui qui aura les paroles de Dieu dans sa bouche, mais qui sera celui qui sera au-dessus de Moïse. Alors que la Bible dit que il n'y a pas de prophète comme Moïse. Et puis pourtant, Moïse dit, si, il y en aura un qui sera plus grand que moi. Donc voilà, on avait vu que Jésus était le seul qui rentrait dans cet état de prophète au-dessus de Moïse. Et là, on arrive, on est plus loin, on arrive à toute la vie d'Israël, Josué, la conquête. Oui, on a l'installation de la royauté. Et la royauté, eh ben, elle ne surprend pas Dieu. Voilà, Israël refuse que l'Éternel soit son guide. Il veut un roi comme toutes les autres nations. Voilà, ça, je vous invite à lire l'histoire, je vais pas faire rapidement l'histoire d'Israël, où les rois, eh ben, vont être nommés, alors au début par Dieu, après plus ou moins par celui qui tape le plus fort. Et Dieu ne va pas être déçu de ces rois, il va pas être surpris de l'échec d'Israël, parce que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et c'est ce qu'on va voir cette semaine avec quelques textes dans la Bible, Bible en main, on verra comment Dieu nous aime au travers de tous ses plans, que malgré l'imperfection d'Israël, malgré l'imperfection de l'homme, Dieu met en place ses plans. Comment Dieu nous aime par son plan parfait. Et avant de poursuivre, je prie que nous prions ensemble pour recevoir sa parole. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce qu'au travers, cette parole ce matin, tu veux résonner dans nos cœurs. De quel amour tu nous as aimés. Tu veux nous confirmer notre identité pour ceux qui croient. Tu veux appeler ceux qui sont encore dans l'hésitation. Merci parce que dans ces temps qui sont de Noël, où on va fêter ta naissance, Seigneur, se rappeler que ça puisse faire écho dans une réalité, un besoin réel au fond de nos cœurs, Seigneur, d'un besoin d'être racheté, sauvé et en ta présence. Merci pour ta parole qui est encore vivante aujourd'hui et qui agit. Merci parce que nous sommes au service de ta parole, Seigneur. Amen. Voilà, et sans plus attendre, voilà, on va avoir Dieu qui va révéler un plan au travers c'est-à-dire l'imperfection de la royauté. Et le peuple, il va oublier Dieu, il va demander un roi. Bon, voilà, il y a eu les juges, il y a eu les chefs juges, hein, mais il dit non, non, nous, on veut être comme les autres. Voilà. Alors Israël est appelé à être une lumière pour les nations, être appelé différent. Il a eu les lois, il a eu un appel différent, mais il dit non, non, nous, on veut être pareil. Voilà. Donc, mais Dieu n'est pas surpris parce que la royauté avait déjà été annoncée. Moïse dira, quand tu demanderas un roi, alors qu'au départ, il ne devait pas en avoir. Le but, c'était de ne pas avoir de roi, que l'Éternel règne sur eux. Mais ils disent, nous, on en veut. Eh bien, la royauté n'est pas une surprise. Et on va lire ensemble le psaume 2. Le psaume 2. Dans les débuts des psaumes, on va avoir ce psaume assez incroyable. Psaume 2, je lis dans la version second 21. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel, le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre. Laissez-vous instruire, rendez hommage au fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement, heureux tous ceux qui se confient en lui. Voilà ce psaume 2, alors j'ai pas choisi de manière innocente, hein, il y a plusieurs passages qui peuvent parler de la royauté, mais celui-là couple les deux, ce qu'on va voir ce matin, la royauté et la filiation en tant que fils. Mais là c'est vraiment le roi, on laisse supposer que ce psaume de la royauté, comme il a été appelé, c'était un récité lors de l'intronisation de certains rois. Alors pas tous, mais certains rois ont eu le droit lors de l'intronisation, alors ils sont devenus rois, voilà, ils ont été dépositaires, vous voyez, de l'autorité. On leur reconnaissait cette autorité, mais ils étaient soumis à Dieu. Voilà, le roi d'Israël n'a pas toute autorité absolue comme les rois d'autour. Il se devait de reconnaître que son autorité lui était donnée par Dieu. Et c'est Dieu qui acceptait qu'il soit roi. Et voilà, donc on récitait souvent ces psaumes pour rappeler au roi sa position. Le roi devait toujours avoir une position de soumission face à la loi, et d'ailleurs il devait même l'écrire. Il devait écrire, lorsqu'il devenait roi, il devait lui-même copier la loi. Mais ce psaume va toujours plus loin, il y a une deuxième lecture, comme vous savez, il y a souvent une lecture que nous on aime particulièrement, hein. On aime lire une lecture qu'on appelle messianique, christique, hein. On voit quelque chose qui dépasse le roi, un peu un roi de la terre, et c'est là où on entre dans ce plan de Dieu, parce que dans d'autres traductions il dit « j'ai oint mon roi », moi j'ai celui qu'il a désigné par onction, dans d'autres versions on a celui que j'ai oint, donc celui qui est oint, bah, c'est le Messie, c'est le même mot, hein. C'est-à-dire, celui qui est oint, c'est celui qui est donc messianisé, c'est lui qui est christique. Donc, on a cette vision de quelqu'un qui est choisi par Dieu et qui est placé en tant que roi. Et il laisse entrevoir quelque chose d'assez grand dans ce psaume, hein, qu'on a pu lire ensemble rapidement. Il laisse une espérance. Vous savez qu'Israël, lorsqu'il a des rois, alors... il va avoir les premiers rois, Saül, après il va avoir David. David va conquérir un grand territoire. Salomon va en profiter de cette paix. Mais après, ça, tout se gâte, hein. Assez vite, il y a les séparations, deux royaumes différents. Et après, ça part assez vite dans le mauvais sens. Et pourtant, dans ce psaume-là, il y a un roi qui a une royauté tellement grande qu'il va avoir les extrémités de la terre comme héritage. Il y a un roi qui va dépasser la position d'Israël. Israël avait une position à un moment donné de force sous David et Salomon. Mais dans ce psaume, on voit « Je veux proclamer le décret que l'Éternel m'a dit. Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » On a quelque chose qui va dépasser la simple royauté. Au travers ce psaume de la royauté, Dieu laisse entrevoir que malgré l'agitation du monde, malgré son effervescence, hein, ça commence comme ça, hein, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? On a quelque chose du pourquoi. Pourquoi tout le monde s'agite autour d'Israël? Vous savez qu'autour d'Israël, il y a toujours des ennemis. Et là le psalmiste interpelle en disant pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent? Là, il parle des rois de la terre, on peut dire que c'est les rois qui étaient autour d'eux. Pourquoi ils se liguent contre moi? Parce qu'ils se liguent contre l'Éternel. Hein. Vous savez que Israël a toujours combattu, malheureusement. Et c'était le roi qui était un peu le chef de l'armée. Donc c'était lui qui se battait au nom du Seigneur. Alors ça, c'est arrivé par des rois qui étaient tout à fait humains. On a cité hein, David, même Saül dans son début, et certains autres rois dans l'histoire des rois, où Dieu va être avec eux. Mais il y a aussi une volonté de dire, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de... Un roi qui va venir qui va être encore plus grand que ça. Un roi qui va venir et qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Un roi qui sera un fils. Un roi qui va briser avec un sceptre de fer. Un roi qui va juger. Un roi qui rend heureux celui qui se confie en lui. On a toute une vision d'un roi qui est plus qu'un roi. On a toute une vision d'un roi qui est limite le représentant de Dieu sur terre et qui possède aussi son autorité. Voilà pour ce que lui dit dans le psaume 2, hein, le verset 6 à 9, « C'est moi, donc c'est Dieu qui parle, il dit, c'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, je te donnerai les nations comme héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase du potier. » Ça fait écho à ce qu'on peut lire dans certains retours eschatologiques, le retour de Christ, hein, voilà, on a une vision de Jésus qui revient en tant que juge et qui juge les nations avec un sceptre de fer. Malheureusement, on voit que ce psaume, il est incomplet. Il y a un état d'incomplétude. Ce psaume n'est jamais arrivé de l'histoire d'Israël. Il n'y a jamais un roi qui s'est comporté de manière tellement sage, eh ben, qu'il a désarmer tous ceux qui étaient autour de lui, même Salomon, hein, qui a vécu dans la paix. Malheureusement, il n'a pas été jusqu'aux extrémités de la terre, même si sa sagesse était très connue. On peut dire que de son époque, il était aux extrémités de la terre. Mais il y avait cette volonté, toujours une volonté qui grouillait. Et dès sa mort de Salomon, on voit qu'il y a la division du royaume. Et une fois que les royaumes seront divisés, ça va toujours être la querelle. On va toujours se battre, soit entre nous, soit autour. Aucun des rois qui va être intronisé, même en lisant ce psaume, eh ben, ne va compléter totalement. Aucun ne va accomplir ce qui est dit. Aucun ne va désarmer les nations. Et il y a aussi une espèce d'avancement dans la pensée, dans comment réagit Dieu. Au début, les rois de la terre se soulèvent, et il est dit au verset 4, « Celui qui siège dans le ciel, donc ça c'est Dieu, il rit. » Puis après, ils se moquent. Puis après, ils leur parlent dans la colère et les épouvantent dans la fureur. Il y a quelque chose au début de « on laisse faire, mais un jour ou l'autre, celui que j'ai placé sur ma montagne jugera. Un jour ou l'autre, ça finira. » Et quelque part, c'est une espérance. Alors pour nous, ça peut faire peur, hein, ça dépend de quel côté on se trouve, mais c'est une espérance pour ceux qui lisaient ce psaume, pour le peuple à l'époque et puis pour l'Église du début. L'Église commençante, aujourd'hui aussi, on peut le lire, quand on voit toute cette agitation dans le monde, alors libérons-nous de leurs liens. Ben, c'est la loi, en fait. Leurs liens et tout ce qui y amène, c'est des liens. Quand vous parlez autour de vous et que vous parlez que vous êtes chrétien, oui, mais tu peux pas faire. Et là, on voit la chrétienté comme des chaînes qui nous empêchent de vivre pleinement libres. Nous sommes des gens enchaînés à des règles, à des lois. On doit répondre de nos actes devant Dieu. Oh là là, on n'ose rien faire. Et il voit ça comme des chaînes. Il voit ça comme quelque chose qu'il faut détruire. Donc on doit s'en libérer. On doit libérer de ces chaînes de l'esclavage, de la Bible. Et c'est tout le contraire, en fait. On est les gens les plus libres en Jésus-Christ. On n'est pas enchaînés dans le péché. Et ce roi, lui, c'est ce qu'il va faire. Parce que c'est lui qui aura la possibilité de briser les nations. Et le plan de Dieu pour l'homme passe alors par la royauté. Et ça, c'est assez surprenant quand on pensait au début, le roi, il n'y en a pas besoin. Et pourtant, il faut que celui qui vienne de la part de Dieu, celui qui sera Messie, il sera roi. Il sera le roi d'Israël. Il le faut, parce que ça passe par là. Il ne sera pas seulement la descendance, il ne sera pas seulement le prophète, mais il sera aussi le roi. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à la crucifixion de Jésus, il a été crucifié pourquoi ? Pas parce qu'il était roi. En tout cas, les gens disent « il se fait roi ». Et c'est à cause de ça que Rome l'a crucifié. Qu'il soit fils de Dieu, bon, ils auraient qu'il soit celui qui vient pour une prophétie, les Romains, ils s'en fichent un peu. Hein. D'ailleurs, ils veulent même pas avoir affaire avec hein, au début. Non, non, mais ça, c'est vous. Quand on lit dans Jean le procès, si vous lisez dans Jean 19, et avant, il dit non, moi, je veux rien avoir à faire avec lui. Jugez-le vous-même. C'est votre loi, c'est votre croyance. Mais après, il dit, il est roi. Il s'est fait roi. Et là, c'était plus dangereux parce que c'était un adversaire politique. Et on peut lire dans Jean 19, 12, 16. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Tout homme qui ose se faire roi se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils s'écrièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Et les prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il le livra pour qu'il soit crucifié. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Là, c'est sa royauté quelque part. Alors oui, c'était pas que ça. Mais c'est le fait qu'il soit roi qui amène en partie à sa crucifixion. C'est en tant que roi des Juifs qu'il a été crucifié. Et d'ailleurs, dès qu'il a écrit ça, Pilate, les Juifs sont venus le voir en disant, non, 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 n'écris pas roi, mais dis qu'il s'est déclaré roi. Et Pilate va dire ce qui est écrit. Écrit. C'est en tant que roi que Jésus a été mis à mort. C'est un roi inédit. Il n'est pas venu avec force, il n'est pas venu avec puissance, et on en avait déjà parlé ici, c'est pour ça que les apôtres, ceux qui étaient avec lui, quand il dit « c'est mon heure est venue », ils ont des épées. Parce qu'ils voyaient en lui un roi qui allait, avec son sceptre de fer, briser les nations, ça y est, c'est le moment. Ils voyaient un roi qui allait maintenant remettre tout le monde d'équerre, quoi. Le oin, le messie, celui qui était sur la montagne, il voulait ce psaume 2 quelque part. Il dit « ça y est, c'est le moment ». Et pas du tout. Mais c'est pour ça qu'ils étaient encore plein d'effervescence. C'est pour ça que Pierre a une épée. Quand je lisais ces passages, je me dis « pourquoi Pierre a une épée ?» C'est le moment de la crucifixion, c'est un moment de faiblesse. Mais lui, il voyait en Jésus un messie roi. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son sceptre de fer et il brise les nations. Voilà comment on pouvait voir. Et ça s'installe dans la royauté. Et Jésus est donc bien le roi. Parce que quand on l'annonce, et c'est le moment aujourd'hui, enfin dans ces moments de l'Avent, on lit souvent toute cette nativité, on voit quand l'ange annonce à Marie qu'elle va être enceinte, il dit « je lui donnerai, voilà, tu auras un enfant, tu l'appelleras du nom de Jésus, je lui donnerai le trône de David, son père, et il y siégera pour l'éternité ». Il annonce que quelque part, celui qu'elle porte, il est roi. Alors quelle application? Ça peut changer notre manière de penser. Ça montre que la royauté fait partie intégrante du plan de Dieu. Que malgré l'échec d'Israël, Dieu n'a pas été surpris. Et il a même utilisé la lignée de David pour le Messie. Et ça, c'est incroyable. Car Jésus est le roi des rois, on le chante facilement. Mais s'il est le roi des rois, il est d'abord aussi et avant tout le roi d'Israël. Parce qu'il doit être roi d'Israël s'il est le Messie. S'il n'est pas roi d'Israël, il ne peut pas être le Messie. Parce que c'est lui qui est loin. C'est lui qui est placé sur cette montagne. C'est lui qui est le prophète. C'est lui qui est le descendant. Et c'est lui qui est le roi. Et Jésus était donc bien le roi des Juifs. Et c'est pour ça qu'il l'a laissé, Pilate. Ne sachant pourquoi il obéissait, il a quand même obéi. Sa condamnation, c'est sa royauté. C'est pour ça qu'on montre à quel point Jésus n'est pas un bricolage. Le plan de Dieu n'est pas un bricolage fait à la va-vite en disant « mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant que l'homme a failli ?» Mais c'est un plan réfléchi de toute éternité qui passe même dans nos failles, qui rattrape même toutes nos failles en fait, tous nos ratés. Jésus, il revient remettre ce que c'était. Les prophètes ont échoué, il est le prophète par excellence. Les rois ont échoué, il est le roi par excellence. Il est obligé de racheter tout ce par quoi on a failli pour pouvoir être le plein représentant devant Dieu au travers son sacrifice. C'est une grâce infinie, c'est une espérance d'une victoire totale. Et je pense que ce psaume peut être un encouragement quand on est dans des difficultés. Il y a une espérance, il y a un juge, il y a un salut qui vient. Et nous aussi, il est encore incomplet, ce psaume. On a une grande partie qui a été faite, mais il y a encore une incomplétude. On n'est pas dans un monde où Jésus règne encore pleinement en tant que roi et qu'il a jugé, mais on est de ceux qui sont heureux car on a mis notre confiance en lui. Et ça, c'est déjà une première partie. Parce que Jésus, il est le roi, il est le juge qui revient, mais ce psaume parle aussi d'un parle aussi d'un fils. Voilà, ce psaume contient les espérances à venir. Jésus n'est pas le plan B, c'est le plan. Et voilà, Jésus, il est aussi annoncé. On voit dans ce psaume d'une filiation très spécifique. Les rois, les premiers rois étaient appelés fils de Dieu, hein. Ils représentaient Dieu en tant qu'une filiation d'adoption. Et dans ce psaume 2, voilà, le roi devient par adoption un fils que Dieu admet et qui met sa loi. Mais Jésus, lui, il est le roi, il est le fils en même temps. Il est celui qui est déclaré fils de toute éternité. On le voit, hein, dans, je vous invite à lire l'Épître aux Hébreux. Donc c'est un prophète qui va annoncer ça. Jésus, il est connu, et là, c'est deux textes qui sont connus peut-être un peu plus. Quand on parle du Fils, hein, c'est un peu plus connu. C'est une vision qu'on connaît un peu plus dans nos milieux évangéliques, que Jésus est le Fils. Et en montrant au travers des difficultés, au travers des épreuves, et c'est beau, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'on voit ensemble, c'est qu'au travers les multiplications des échecs de l'homme, Dieu ne se lâche jamais. Dieu ne se lâche jamais d'envoyer une espérance. Dieu ne se lâche jamais de parler, de rappeler qu'il a un plan. Et c'est des textes un peu plus connus, donc on a Ésaïe 7, 13 et 14. Ésaïe dit encore, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu ? Voilà pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. » Et plus loin, verset 9, versets 5 et 6, passage là aussi connu. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Alors là, on est déjà passé à un bout de la royauté, hein, on arrive à la fin. Hein. Dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du défilement, on arrive à la fin, le royaume va être déporté. Et ce prophète Ésaïe parle quand même en disant « Mais vous usez la patience de Dieu, vous allez droit dans le mur, vous m'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté ceux qui étaient venus avant. » Et l'histoire montrera que le royaume de Juda va faire pareil, il va pas écouter. Personne n'écoute, les prophètes parlent dans le vide. Ou très peu, mais en tout cas les rois qui devaient être dépositaires, vous avez vu, le roi il devait être dépositaire de la présence de Dieu, il devait lui obéir, lui être soumis, et on voit que les rois font n'importe quoi. Alors le prophète annonce quelque chose d'incroyable, il dit « Oui, vous êtes sous la colère, oui, malheureusement vous allez partir en exil, oui, tout ce que vous craignez va vous arriver, ils vont être déportés, mais, voilà pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, hein, ça c'est Ésaïe 7. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Voilà, il va donner un signe puissant. Une jeune fille, pas encore mariée, va porter un fils qui sera Dieu avec nous. Dieu n'est pas surpris de la direction des cœurs des rois. Il n'est pas surpris, malheureusement, de l'échec des rois. Il n'est pas surpris qu'ils tombent sous la colère et qu'ils vont partir en exil. Il n'est pas surpris que ce roi refuse, hein, parce que dans l'histoire du contexte d'Israël, à ce moment d'Ésaïe, Ésaïe dit, voilà, demandez à Dieu et vous aurez un signe. Et le roi dit, non, je vais pas tenter l'Éternel. Et en fait, il ne veut rien avoir à faire avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, écoutez donc, membres de la dynastie de David, donc là, il s'adresse à des rois, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu ? Voilà, on a une certaine lassitude de la part du prophète qui dit que même vous usez de la patience de Dieu, mais c'est pas possible. Tu as une patience infinie, même si dans sa patience, ben, il est obligé de faire jugement. Et c'est pourquoi il dit maintenant, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui va vous donner un signe. Vous voulez pas votre signe, il va le donner lui-même. La Vierge sera enceinte, elle mettra en monde un fils. C'est-à-dire que Ésaïe dit, dans les moments où vous allez vivre, ça va être difficile. Vous allez vivre des moments difficiles, c'est peut-être pas pour maintenant, mais le Seigneur lui-même va prendre les choses en main et il donnera un signe. Il donnera un enfant. Et cet enfant est incroyable parce que quelques chapitres plus loin, on voit le fils qui est annoncé. Ce fils qui est annoncé, c'est aussi un roi. Parce qu'il dit, la souveraineté reposera sur son épaule. Il sera souverain. Et il porte des noms, et ça c'est très gênant pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ en tant que Messie, c'est qu'il porte des noms que Dieu seul porte, cet enfant. Là c'est un enfant, donc c'est un fils, donc c'est bien quelqu'un qui est mis au monde, c'est quelqu'un qui naît, donc ça serait quelqu'un dans l'humanité. Et pourtant, il porte des noms comme Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais ça, c'est des noms qui sont à Dieu. C'est-à-dire que 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe annonce que Dieu va prendre les choses en main. Et c'est lui-même qui va faire les choses. Devant les multiplications des échecs, devant la patience qui est usée, devant les multiplications du péché, et ne pensons pas qu'on aurait fait mieux qu'Israël, hein. Il dit, moi je vous donne une espérance quand même. C'est que tout ça, un jour, je vais m'en occuper en fait. Un jour, je vais vous donner quelqu'un. Un jour, il y aura un enfant. Et c'est cet enfant sur qui reposera les choses. C'est lui, il va étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David. Ça, c'est aussi, ça fait écho au psaume 2, hein, cette espèce d'universalité, ce royaume qui va s'étendre à l'infini, qui part bien du trône de David. Et puis il dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Voilà ce que va faire Dieu pour rattraper une humanité déchue. Voilà un peuple qui est dans la tourmente, un peuple qui a usé et abusé de sa royauté, un peuple qui se rebelle, un peuple qui refuse d'écouter les prophètes, mais dont les prophètes, parlant pour Dieu, de la part de Dieu, donnent une espérance. Ça ne sera pas toujours ainsi. Un jour, il va y avoir un fils. Un jour, ça va changer. Et l'histoire changera. Alors quand on l'apprend, hein, c'est toujours comme ça, qu'est-ce que ce signe, ça sera, il est Emmanuel, il est celui qui est le prince de la paix, hein. Il est celui qui porte des noms, comme on le disait, des noms divins, et c'est très spécifique. Ça regroupe, à chaque fois, on est obligé de revenir à Jésus, parce que c'est le seul qui porte tous ces noms. Il est à la fois prophète, il est à la fois roi, il est à la fois la descendance, il est à la fois celui qui est le prince de paix, il est celui qui est l'Emmanuel. Ça, à chaque fois, il passe à tous les plans. S'il n'y a pas Jésus, qui c'est? Qui est ce fils? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il est déjà venu? Et là encore, hein, qu'est-ce que ça change? Ben, beaucoup de choses pour celui qui croit. Parce qu'on croit déjà. Mais en préparant ces messages, ou en préparant, en lisant la Bible, on se rend compte à quel point Dieu nous aime. On se rend compte à quel point Dieu a eu un plan de toute éternité. Et c'est aussi, ça nous montre à quel point que même dans les moments sombres qu'on peut passer, ça peut être difficile des fois pour nous, ça peut être difficile dans nos vies. Et même quand l'espoir est tout faible, eh ben Dieu, il est au contrôle. Et il n'écrase pas le lumignon. Dieu est au contrôle et il nous donne une espérance. Il n'a pas laissé le peuple à dire « Vous êtes fichus, je vous mets en exil et j'entends plus parler de vous. » Il dit « Non, vous allez partir en exil, mais vous reviendrez. Vous reviendrez et un jour, je vais faire les choses moi-même. Je vais susciter quelqu'un. Je vais susciter un prophète. Je vais susciter une descendance. Je vais susciter un roi. Je vais susciter un fils. » C'est Dieu qui est au contrôle. La beauté de la parole de Dieu, c'est que j'ai rien à faire pour essayer de gagner Dieu. C'est Dieu qui a tout accompli pour que nous puissions venir. Parce qu'il était impossible pour nous. Et l'histoire de la Bible montre que l'homme est incapable d'arriver à Dieu. En fait, c'est ça qui est beau quand on regarde, c'est que si on ôte Jésus de l'équation, on est ici pour rien, en fait. Chacun aurait dû dormir tranquillement chez lui, parce que si Jésus n'est pas venu faire le pont entre Dieu et nous, on ne pourra jamais s'approcher d'un Dieu créateur tel qu'il est. C'est pour ça que c'est Dieu qui a l'initiative. Jésus n'est pas venu par hasard dans le monde et c'est pas pour rien qu'il a tout bouleversé. C'est parce que c'était prévu de toute éternité. Ça a été le seul plan d'amour, le seul plan de grâce. La Bible relate pas une histoire de guerre, une histoire de violence, comme je l'ai déjà entendu. On voit un Dieu absolu qui juge, qui est violent, qui déclare par interdit. Non. On y voit aussi un Dieu qui aime sa créature et qui va à chaque fois laisser une espérance qui aura un jour une relation possible. Que tout ce qui a été fait n'est que l'ombre de quelque chose qui vient. Elle vient dans son propre fils. Lui-même est aux commandes. Nous ne sommes pas à l'initiative de la grâce. La grâce, c'est quelqu'un qui a payé pour nous. Et on était invité par la mairie À Brunstatt, ils invitent, quand on ouvre le marché de Noël, la mairie de Brunstatt offre le vin et puis le vin chaud et les tartes flambées toute la soirée. Et mon fils, il dit, ah, c'est cool, c'est gratuit. Et ma voisine qui était là, elle dit, non, c'est pas gratuit, c'est offert, parce que quelqu'un a payé pour nous. Alors, j'ai aimé la subtilité. Le salut, il n'est pas gratuit. Il nous a offert. Alors, il est gratuit pour nous, parce qu'on nous n'a rien payé, mais quelqu'un a payé pour nous. Et j'ai aimé cette, parce que c'est elle-même qui l'a corrigé, ça, j'ai même pas eu à le faire, et j'ai trouvé ça assez, dans le sens, bah non, les gens ne l'offrent pas de volonté, ils sont payés, eux. Et Dieu a payé. Et il a payé le prix fort en son Fils Jésus-Christ. Et si on est là aujourd'hui, c'est chacun par grâce. Mais quelqu'un a payé pour nous. Nous, on n'a pas eu à faire, mais quelqu'un l'a fait. Et le monde s'agite aujourd'hui. Et ça peut aussi nous assurer. Quand on voit le monde s'agiter, on dit, oh, le monde s'agite. Mais Dieu a un plan. Ah, je ne sais pas quoi faire. Dieu a un plan. Et Dieu nous surprendra beaucoup plus que ce que nous pourrions imaginer. On l'a encore entendu au travers ce court témoignage où Dieu a guidé toutes ces étapes. Les applications sont multiples parce que ce plan merveilleux nous assure de notre foi. On en parlait hier soir, mon fils me disait, mais comment on sait que c'est vrai? C'est pas facile de prouver que ce que je crois est vrai, hein, parce que si je le crois, forcément, je crois que c'est vrai. Mais je vais juste essayer à sa manière et à ma manière, bien imparfaite, de dire que la Bible est cohérente. Et on ne trouve pas toujours cette cohérence dans tous les livres. La cohérence de la Bible, c'est de montrer que l'homme ne peut rien faire de lui-même, si Dieu n'était pas venu. Et donc, on peut être reconnaissant que peu importe les épreuves, Dieu est là. Et le monde est là où il doit être, et le monde va aller là où il doit aller. Dieu est aux commandes. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme certains chrétiens, s'allonger en disant Dieu revient, on l'attend tranquille sur sa terrasse, enfin pas aujourd'hui, mais non, il nous donne. Maintenant, vous êtes porteur d'espoir. Il y a eu cette prière qui allait dans ce sens. Vous êtes porteur de cet espoir. Vous-même, à l'image d'Ésaïe, vous êtes porteur de l'espoir que j'ai pour le monde, de l'amour que je porte pour le monde, de la grâce que je suis prêt à lui offrir. Voyez, c'est ça, quelque part aussi, dans ces moments de l'Avent et dans ce qu'on fête à Noël. C'est l'espérance. C'est l'espoir d'une réconciliation avec Dieu. C'est plus que l'espoir d'une guérison d'un rhume ou une guérison d'un découvert, ce qui est bien, hein. Mais être délivré de ses péchés, c'est mieux. Donc on peut être reconnaissant. Et on peut être aussi interpellé. Comme dirait la Bible, c'est un incroyant. Jusqu'à quand résisteras-tu à l'amour, à la compassion, à la grâce et à la patience de Dieu à ton égard? C'est un peu ce que disait Isaïe. Hein. Jusqu'à quand userez-vous la patience de l'Éternel? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, on dit Dieu, il n'a rien fait pour moi. Mais en fait, Dieu, il a déjà tout fait. Il faut juste simplement regarder. Et Jésus est la réponse. Jésus. Et la réponse Jésus, donc pas le plan B, c'est le plan de Dieu. C'est lui qui est le Fils et qui vient. Et on verra la dernière partie la prochaine fois. Et pour conclure cette partie, rapidement, on a montré à quel point Jésus était de toute éternité et est de toute éternité le plan de Dieu. Dans un mystère. Hein, on en a déjà parlé la dernière fois, c'est un mystère. Qui ferait ça? Qui créerait? Avec toute cette capacité de création qu'a Dieu, toute sa toute-puissance, qu'il accepte cette rébellion, qu'il accepte que son fils sera un jour sacrifié pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Rien n'est arrivé et rien n'arrive en dehors de la volonté de Dieu, frères et sœurs, et c'est ça aussi qui est rassurant. Je suis toujours donc émerveillé par cette parole, toujours émerveillé par une cohérence, par son infaillibilité. Et la faillibilité de Dieu est mon infaillibilité. Je suis très faillible dans ce que je fais. Très infaillible, pardon, mais très faillible, et lui, il est infaillible. Et ça, c'est beau. De placer sa confiance en Dieu, dans celui qui nous a tellement aimés. Et donc, c'est vraiment le plan du Seigneur, et vraiment une grâce. Et peut-être beaucoup, beaucoup d'entre vous ont rien découvert ce matin. Mais rien que de se souvenir de ces choses. Rien que de se rappeler à quel point, dans les milieux les plus sombres, dans les moments les plus sombres, Dieu a toujours laissé ce fil rouge qui amène à Christ. Et voilà, je vais laisser quelques versets de Paul, voilà, qui nous montrent à quel point, hein, Paul, qui avait cette grande révélation du mystère de Dieu, mais qui nous pousse encore et toujours à venir à Dieu. Quand le monde s'agite, quand les épreuves arrivent, Dieu reste le même. On l'a aussi prié, je vous laisserai Colossiens 15, 20 et les derniers 25, 27. Oui, il va expliquer à cette église de Colosse, il dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. » Et il termine après. « C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et de toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. »